Bonsoir. L'opposition a organisé une marche vendredi dernier dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo pour réclamer le retrait de la machine à voter du processus électoral. De son côté, le Front commun pour le Congo FCC a tenu son meeting à Kinshasa samedi dernier pour présenter à la population son candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain. Aucun incident n'a été enregistré lors de ces deux manifestations politiques. Quelle analyse faire de ces deux événements? C'est la question au débat ce soir. Et pour en parler, nous recevons Jean-Bertrand Ewanga, député national de l'opposition et porte-parole de la plateforme Ensemble pour le changement. Jean-Bertrand Ewanga, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Patrick Kanga, bonsoir.
Bonsoir.
Conseiller politique à la présidence de la République et porte-parole du parti présidentiel, le PPRD. Et enfin, Étienne Vivien Kalonji, analyste indépendant et chercheur en résolution non violente des conflits. Étienne Vivien Kalonji, bonsoir.
Oui, bonsoir mon frère Kona Madimba.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'opposition politique de la République démocratique du Congo a organisé vendredi dernier une série de marches dans plusieurs villes du pays pour réclamer le retrait de la machine à voter du processus électoral. À Kinshasa, Goma dans la province du Nord Kivu et Bukavu dans le Sud Kivu par exemple, cette marche s'est déroulée sans aucun incident, mais à Kisangani, elle a été interdite. Un aperçu de ce qu'a été cet événement en République démocratique du Congo dans ce compte rendu de Alain Hirung.
À Kinshasa, cette marche a démarré sous les coups de 10h45. Des milliers de manifestants brandissaient les drapeaux de leur formation politique. Ils tenaient également des banderoles avec effigie des leaders de l'opposition sur lesquelles on pouvait lire « Oui aux élections, non à la machine à voter, tout doit changer ». Aucun incident n'a été enregistré lors de cette marche animée avec des fanfares et encadrée par la police nationale congolaise. Celle-ci était visible depuis la place de l'échangeur, point de départ, jusqu'à place de la démocratie, le supposé point de chute de la marche. À Goma, au Nord Kivu, la manifestation des regroupements politiques de l'opposition, accompagnée des mouvements pro-démocratie, s'est aussi déroulée sans incident. Un déploiement important de la police a encadré cette manifestation qui a eu comme point de chute le siège de la CENI où un mémorandum a été lu et déposé. Les militants de l'opposition au Sud Kivu ont également marché sans incident sur les artères principales de la ville de Bukavu ce vendredi dans l'avant-midi. La police a été mise à contribution pour encadrer la marche en vue d'éviter tout cas de débordement. Un mémorandum invitant la CENI à renoncer à l'utilisation de la machine à voter a été déposé au secrétariat provincial exécutif de la CENI Sud Kivu après la procession. À Kisangani dans la province de la Tchopo, par contre, la marche pacifique projetée par le collectif des partis politiques de l'opposition n'a pas eu lieu parce que tout simplement interdite par le maire de la ville. Cette décision a provoqué la protestation des dirigeants et militants des partis politiques membres de l'opposition. Les militants de l'opposition se sont rassemblés à la hauteur de la maison colorée, non loin du marché central, point de départ de la marche annoncée par leur parti. Cependant, ils en ont été empêchés par les forces de l'ordre.
Le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, de son côté, a organisé un meeting à Kinshasa samedi dernier pour présenter à la population son candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain, un événement désormais très commenté depuis le week-end. Comment s'est-il déroulé? Éclairage de Richard Junior Kamunga.
La mobilisation était forte. Les 40 000 places assises du stade Tata Raphaël n'ont pas suffi pour contenir les nombres importants de militants et sympathisants du Front commun pour le Congo. Même les alentours du stade étaient bourrés du monde. L'honneur a été donné au Premier ministre Bruno Tshibala de présenter officiellement le candidat du FCC aux militants de cette méga plateforme électorale.
Au nom du chef de l'État, je vais vous présenter notre candidat. Son nom, c'est Ramadan Chadari Emmanuel.
Ensuite est venu le tour de Ramadan Chadari Emmanuel de prendre la parole pour remercier les chefs de l'État qu'il a désignés, puis la population kinoise.
Merci, merci, Mingi.
Je remercie les Quinoises et Quinois. Je vous remercie comme vous êtes venus nombreux. Merci parce que vous avez suivi l'appel du FCC. Le stade de Tata Raphaël est plein et il y a aussi des gens très nombreux à l'extérieur du stade.
Aucun incident n'a été signalé après le meeting. La police nationale congolaise a assuré la sécurité d'une façon professionnelle.
Jean-Bertrand Ewanga, député national de l'opposition et porte-parole de la plateforme Ensemble pour le changement. Commençons par en savoir plus sur l'événement organisé par votre camp politique. Quelle analyse faites-vous de la série de marches organisées par l'opposition dans le pays le vendredi dernier?
Il faut se féliciter. Notre peuple a compris et nous avons lancé l'appel. Beaucoup de gens, des vendeurs d'illusions, ont affirmé que l'opposition a été finie, totalement disparate. Et nous avons d'abord démontré notre reprise par le meeting, le méga meeting que nous avons organisé.
Vous parlez de celui de Kinshasa?
Celui de Kinshasa, pas celui de Lubumbashi. Celui de Kinshasa, et puis encore, il y a eu la marche, et nous nous sommes dit qu'on ne doit pas s'arrêter à Kinshasa, il faut étendre les ailes jusqu'à travers le pays, et nous avons pris des contacts avec toutes nos fédérations à travers toutes les 26 provinces. On comprend des réticences, mais il y a eu des réponses très positives, où je peux féliciter la police nationale, ici à Kinshasa, à Goma et ailleurs, mais pas à Lodja, je ne félicite pas, c'est de Sambo. Et puis à Bandundu également, un très mauvais comportement de la police. Je crois qu'ils doivent venir en stage à Kinshasa, peuvent être encadrés par le général Kasongo. Lubumbashi, n'en parlons pas, parce que ça, c'est une zone réservée ou enfermée. Mais il faut se dire que cette marche, nous avons mobilisé à peu près 1 million de personnes à travers tout le pays. Ici, à Kinshasa, 500 000. Vous avez vu, le boulevard a été inondé. Nous étions même dépassés, la police également. Et c'est une prise de conscience dans le sens de nos engagements. Nous avons exigé à la CENI et un mémoire a été déposé pour le retrait de la machine. La machine est illégale. Ça fait intrusion dans le processus électoral et ça peut nous amener à des contestations et aussi à des provocations qui peuvent mal tourner pendant des élections que nous voulons tous.
Mais Jean-Bertrand Ewanga, est-ce que vous n'exagérez pas un peu là dans l'auto-évaluation que vous faites vous-même de vos marches, je m'arrête déjà à un détail que vous venez de donner. Vous parlez d'avoir mobilisé pour l'ensemble du pays, si je me trompe, vous me corrigez, pour l'ensemble du pays à peu près 500
000. Non, 1 million.
À peu près 1 million, alors que on, selon les résultats ou selon les chiffres qu'on entend avancer à Kinshasa.
Qui a avancé
Par-ci, par-là.
Par-ci, par-là, selon des
nombreuses sources, on parle de 5 000 personnes seulement mobilisées.
Donc, ce sont des gens peut-être qui sont intéressés par d'autres motivations, mais je vous dis, nous avons pu mobiliser des gens, les images sont là, nous avions eu même des drones.
Sur l'esplanade du stade des Martyrs, il n'y avait pas...
Non, nombreux ne sont pas arrivés. Nombreux ne sont pas arrivés à destination. Et après la marche, beaucoup ont pu décrocher. Mais nous savions dès le départ, la mobilisation a été très forte.
Mais justement, puisque vous êtes dans l'évaluation, est-ce que ce n'est pas un peu faible par rapport aux objectifs souhaités au départ? Juste quelques villes qui ont été concernées par la marche et pas tout le pays.
Mais il faut d'abord commencer quelque part. Et les villes qui ont répondu, ces villes-là, ils font le poids de l'action que nous menons. Et nous ne comptons pas nous arrêter là-bas. Nous allons dans le tout prochain matin reprendre l'initiative. Et l'effet domino va faire que d'autres provinces se répondent. Et c'est pourquoi nous voulons mettre en garde certains gouverneurs de province, comme certains responsables de la police. Quand on est gouverneur, on sert l'État. On ne devient pas chef de parti politique. Quand on est policier, vous êtes au service de l'État. Vous devez assurer, comme le général Kasongo le fait, et le gouverneur Kimbuta.
Alors, je vous sens déjà applaudir la police de Kinshasa, mais est-ce que ce n'est pas la même police congolaise dans tout le pays? Comment arrivez-vous à différencier cette police de Kinshasa et celle d'ailleurs?
C'est une question d'homme. Après tout, c'est une question d'homme.
Comment expliquerez-vous alors qu'en province, on n'est pas autorisé l'opposition
mais vous prenez une province
à circuler pacifiquement.
Vous prenez une province comme le Haut-Katanga. Mais ça, c'est la dictature. Le gouverneur ne peut même pas vous écouter quand vous lui expliquez.
Vous pensez que cette police-là n'obéit pas au ministre de l'Intérieur?
Ben, je sais pas, le degré de complicité, des arrangements qui se font, peut-être qu'il les faut à Kinshasa, parce que c'est ici où il y a le siège des institutions, il y a toutes les missions diplomatiques ici, et puis aussi, nous n'allons pas nous laisser faire.
Mais puisque c'est récurrent, vous ne vous posez pas cette question, est-ce que cette police est indépendante, elle obéit à qui, n'obéirait-elle même
c'est,
pas
c'est, au... C'est quelque chose à géométrie variable. Je vous dis qu'il y a quelques temps, nous avons connu la police ici avec l'ancien général qui nous a bâillonné ici. Il avait ses méthodes. Voilà que Kasongo arrive, il écoute.
N'avez-vous pas l'impression que c'est plutôt les politiques, peut-être les autorités civiles qui, comme ça, jouent avec l'opposition selon les périodes?
Non, mais je crois que c'est un problème de volonté politique. Et surtout maintenant, nous sommes dans la phase des élections électorales. Et ils n'ont pas le droit d'empêcher que les gens fassent même le pré-campagne, expriment leurs opinions, parce que nous sommes en période préélectorale. Donc, je me dis que le cas de Haut-Katanga, c'est un cas d'école. Il faudra que l'autorité au niveau national, le ministre de l'Intérieur, les autorités de la police, essaient de tirer les oreilles du gouverneur de province et de tous les autres pour que les choses aillent de l'avant.
Alors, l'objectif ou l'un des objectifs recherchés par l'opposition, c'était le retrait de la machine à voter du processus électoral. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Avez-vous l'impression que vous avez atteint cet objectif?
Non, mais nous sommes dans un chemin démocratique et nous ne prenons pas les armes pour ça. Nous allons continuer des pressions. Demain, nous allons saisir la CENI pour lancer un ultimatum, lui demander de nous répondre favorablement, c'est ce que nous attendons. Alors, et s'il n'y en a pas, nous allons nous prendre en charge. Il y aura encore d'autres actions, on ne se fatigue pas.
Je vous entends applaudir déjà le travail de la police de Kinshasa. Est-ce que...
Pour cette fois-ci. Oui.
Alors, est-ce que vous applaudissez aussi un peu la sortie apparemment brillante, éblouissante du FCC avoir réuni beaucoup de monde au stade de Tétanfin?
Quel monde, des fonctionnaires ont été obligés de venir, certains ont été menacés de révocation, des pauvres femmes qui vendent au marché devaient rejoindre le stade, sinon elles vont perdre leurs étalages, c'est ce que vous appelez, et moyennant des sommes d'argent. L'argent a été distribué, nous avons des preuves.
Est-ce que c'est pas
au niveau du Parlement, d'ailleurs, il y a une initiative qui sera présentée par un collègue pour l'argent du Trésor qui a été utilisé pour corrompre les gens.
Jean-Bertrand Iwanga, c'est pas la première fois que l'opposition brandit ses justificatifs ou ses accusations contre la majorité.
Ce n'est pas de la littérature. Hein. Mais j'ai dit des choses vraies.
Nous avons
certaines personnes ont été même révoquées parce qu'ils ne sont pas allés à la messe du FCC.
Nous sommes les médias et nous n'avons jamais vu un document nous présenter ces situations.
Je vous dis que l'initiative est déjà là. On va saisir le Parlement pour qu'on présente l'argent du Trésor qui est sorti, le bus de l'État qui ont sillonné Kinshasa pour ramasser les gens moyennant 10 000, 5 000. Ah, nous avons noté tout ça. Mais nous n'avons pas donné un seul franc aux militants qui sont venus nombreux nous accompagner dans notre marche.
Député national de l'opposition et porte-parole de la plateforme Ensemble pour le changement, Jean-Bertrand Iwanga, nous revenons à vous dans un moment. Patrick Kanga, conseiller politique à la présidentielle, à la présidence de la République, rapporteur du bureau politique du principal parti de la majorité, le PPRD. Patrick Kanga, devons-nous commencer cet échange avec vous par recevoir de vous des satisfaits pour le meeting organisé le week-end dernier par le camp présidentiel?
Je vous remercie. Je salue notamment l'honorable Iwanga. C'est la première fois que nous nous rencontrions dans un plateau ou un studio. Écoutez, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de commentaires. La presse était là, Radio Capi était là. Tout le monde a assisté à ce qu'a été le meeting du FCC. Vous savez, lorsque vous avez fait un meeting et que ça a été une réussite, vous n'épiloguez pas longuement là-dessus.
Alors, donc pour vous, c'est une réussite?
pour vous aussi, parce que vous étiez là. J'ai pas besoin de me justifier, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu vous-même ce qu'a été la marche de l'opposition. J'ai même vu que lorsque l'honorable Iwang a parlé des chiffres, vous avez été très courtois en ne voulant pas dire que c'était un peu exagéré, parce que vous avez aussi couvert ces marches et vous savez le nombre exact des personnes qu'il y avait.
Alors,
la police nous renseigne qu'il y avait 4000 personnes, c'est beaucoup de gens, mais c'est pas encore ça.
Ça, c'est Kinshasa.
Pour une ville de 13 millions d'habitants.
Mais est-ce qu'on peut connaître l'évaluation camp présidentiel?
Entre-temps, je ne suis pas un évaluateur de meeting. Le FCC a présenté son candidat au cours d'une activité politique au stade Tata Raphaël. Il y avait du monde à l'intérieur du stade, à l'extérieur du stade, ainsi qu'aux alentours du stade. Voilà pourquoi la police a évalué la population mobilisée à 180 000 personnes. J'ose croire que c'est réel. Mais quoi qu'il en soit, ce qui importe, ce n'est pas au travers nos meetings respectifs que le peuple s'exprime. Le peuple s'exprime au travers le vote, au travers l'élection. Et c'est ce à quoi nous nous préparons. Nous n'allons pas faire notre démonstration de force que au travers des meetings, des marches. Là, ce n'est encore rien. Le FCC fera sa grande démonstration de force à l'issue des élections du 23 décembre 2018. Et c'est là qu'on saura où est le peuple et dans quel sens s'est exprimé la voix du peuple.
Alors, Patrick Kanda, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous souhaitons nous arrêter, et ça sera aussi l'occasion pour vous de continuer à nous éclairer. Mais est-ce que, la même question que j'ai posée à l'opposition tout à l'heure, est-ce que la majorité n'exagère pas un peu aussi sur les chiffres? Il y a une divergence. La police parle d'un chiffre apparemment grossi de 180 000 personnes dans le stade, en fait, autour de cet événement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais déjà, le président de l'Assemblée nationale, qui est aussi une personnalité éminente dans le regroupement FCC, parlait, lui, de la moitié de ce que la police a déclaré. Est-ce que ce n'est pas déjà là une contradiction?
Écoutez, ne nous circonscrivez pas dans un débat de chiffres. Vous avez couvert les meetings, vous savez ce qu'on a fait, et je pense que l'objectivité vous permettrait de dire la vérité. Le FCC a fait carte en plein au stade Tata Raphaël. Nous avons présenté notre candidat. Dans les jours qui suivent, notre candidat présentera son projet de société. L'équipe de campagne nationale sera présentée. L'essentiel, ce sont les alternatives. Les alternatives, l'expérience que nous allons mettre au service de l'État au travers nos candidats pour rencontrer les désidératas de la population. Et c'est ce à quoi le FCC s'astreint. Nous sommes un parti de gestion et non un parti de la politique politicienne. Nous connaissons ce pays, nous connaissons les difficultés, nous connaissons les atouts. Et c'est ce à quoi nous nous préparons matin, midi et soir pour les 5 années qui arrivent, pour que nous ayons une majorité parlementaire et que nous ayons un chef de l'État qui va notamment s'inscrire dans la continuité de la matérialisation du président Joseph Kabila. C'est cela l'essentiel pour nous. Maintenant, si vous voulez que nous puissions s'éterniser sur les débats des chiffres, je pense que ce débat-là est fini. Tout le monde a été témoin de ce qui s'est passé. Je pense que nous devons passer aujourd'hui dans des débats plus importants.
Je suis d'accord avec vous.
Des chiffres.
Je suis d'accord avec vous, mais les chiffres sont importants pour qu'on comprenne bien l'ampleur.
C'est vrai, la démocratie, c'est les chiffres. S'il fallait qu'une élection soit faite entre le vendredi 26 et le samedi 27, je crois que vous savez bien, vous et moi, qui aurait été gagnant de cette élection et qui en sortirait perdant.
Quelle réponse donnez-vous à ces accusations qui fusent déjà? Le FCC a utilisé les moyens de l'État, a réquisitionné les juges de l'État, a utilisé les trésors publics.
On n'a pas réquisitionné. D'abord, Transco est une société commerciale. C'est pas une société d'État. Il faut connaître d'abord la nomenclature des entreprises qu'on a au niveau de notre pays. Transco est une société commerciale.
Para-étatique.
Une société commerciale dont l'actionnaire principal est l'État. C'est une société unipersonnelle, mais c'est une société commerciale qui vend ses services, ses prestations de services. Nous avons vu quelquefois l'opposition faire des meetings à la Tchangou, louer des bus Transco.
Et souvent, on fait l'entretien le jour des manifestations de l'opposition.
Je ne suis pas gestionnaire Transco. Moi, je vous dis ce qui s'est passé. Les bus que vous avez vus allouer ou affectés à prendre certains militants, nous avons payé de l'argent. Il y a des preuves, il y a des factures. Vous n'avez qu'à aller chez Transco et vous verrez la somme qui a été versée pour la location de ces bus. Vous savez, la démocratie coûte cher. Et je pense que lorsque le président Jacques Chirac disait que la démocratie est un luxe pour l'Afrique, parfois, nous avons mal perçu cette citation. La démocratie coûte cher, partout au monde. Voilà pourquoi vous voyez en Europe des candidats sérieux. Lorsqu'ils veulent aller lors des échéances électorales, ils font des collectes de fonds, ils cherchent l'argent. Parce que des meetings, si vous voyez aujourd'hui le président Sarkozy poursuivi dans l'affaire Big Malion, c'est parce que ces meetings ont coûté trop cher. Aujourd'hui, Ensemble n'est pas une structure démunie. Ses patrons voyagent en jet privé, vont dans les hôtels les plus chers. Ils sont souvent à Bruxelles, pendant que nous sommes, nous, à Mbandaka, que nous sommes à Isiro, nous sommes à Rutshuru,
pendant que le FCC se sert de la Banque nationale.
Ce que vous dites, j'espère que c'est une affirmation ou c'est un questionnement. Parce que si c'est une affirmation pour un journaliste aussi sérieux, je pense que c'est une allégation diffamatoire très grave. Qui peut même faire suite à une poursuite judiciaire, parce que lorsque vous dites que la Banque centrale a été mise à contribution, c'est une allégation qui doit être sous-tendue par des preuves. Et moi, je suis confiant et je suis à l'aise de vous dire que l'argent du Trésor public n'a pas été engagé pour l'activité du FCC. D'ailleurs, le budget initial qui était prévu pour ce meeting a été revu sensiblement. Laissez-moi finir.
Pouvons-nous?
C'est une question importante.
Vous avez un timing.
Oui, mais je m'exprime, vous pourrez couper le temps après. Le budget que nous avions prévu initialement pour notre meeting.
Bouclez votre intervention.
A été sensiblement revu à la baisse.
Il était de combien?
Non, je peux pas vous le dire. C'est sur nos budgets secrets. Si vous voulez venir à nos bureaux, on vous dira quel était le budget. Pour l'instant, il est encore à des niveaux stratégiques. C'est pour vous dire que cet argent n'est pas provenu de l'État. Nous avons des cotisations, nous avons des partenaires, nous avons des donateurs qui existent. Et cela se fait en phase avec des principes démocratiques et républicains. Aucun parti sérieux dans une démocratie peut aller à des échéances présidentielles rien qu'avec le monde et la bonne foi.
Merci.
Il faut les moyens et la démocratie, c'est cela.
Merci Patrick Kanga. Nous revenons à vous tout à l'heure. Étienne Vivien Kalongi, analyste indépendant et chercheur en résolution non violente des conflits. Étienne Vivien Kalongi, vous avez écouté l'évaluation des uns et des autres de leurs activités. Que pensez-vous des deux activités, aussi bien la série de marches de l'opposition le vendredi et le meeting du FCC le samedi? Avez-vous l'impression que les deux camps ont atteint leurs objectifs?
Oui. Merci beaucoup, mon très cher estimé compatriote Dona Madimba. Je m'en vais aussi saluer mes deux co-débatteurs de ce soir. Pour répondre à votre question, je pense que nous sommes dans un domaine purement de l'action politique, une matière sensible qui consiste à voir l'action que mènent les différentes forces politiques par rapport aux objectifs qui se sont assignés. Et s'il faut commencer par l'action politique menée par les partis politiques de l'opposition, il me semble que la question de la stratégie à entreprendre pour la conquête du pouvoir reste le plus grand dilemme de l'opposition dans notre pays, car cette dernière étant hétérogène et infiltrée par les opportunistes de tous bords dans l'arène politique, aucune intelligence de la conquête efficace du pouvoir n'est envisageable. Pour nous qui évoluons dans la recherche scientifique qui se rapporte à la sociologie politique approfondie, nous pensons que la question de la stratégie politique reste éminemment une question qui se rapporte à la notion de l'action politique, c'est-à-dire celle qui vise à infléchir, à modifier ou à soutenir tout processus de prise de décision politique. La stratégie actuelle de la marche contre la machine à voter et le fichier électoral ne bouleversera aucun rapport de force politique si ce n'est que c'est versé dans une logique du boycott des élections. Cependant, cette logique du boycott ne pourrait que nous conduire vers une autre transition politique avec le report des élections, c'est-à-dire un nouveau partage du pouvoir qui ne sera pas aussi réel avec ces contingences du débauchage déjà vécues. La stratégie dans notre domaine de résolution non violente des conflits consiste à choisir et planifier différentes actions non violentes et à les mettre en œuvre de manière coordonnée en vue d'atteindre un objectif déterminé. La visée de la stratégie de la lutte non violente que nous prenons est de contraindre l'adversaire afin qu'il se trouve obligé de se rendre à vos raisons et du moins à vous rendre justice. Nous avons des structures politiques qui composent l'opposition politique dans notre pays qui n'ont fait qu'essuyer des revers politiques face aux stratégies de leurs adversaires de la mouvance politique au pouvoir, qui ont réussi pendant toute la législature à faire passer des lois injustes sur la pratique démocratique loyale, s'il faut s'en tenir au mode de scrutin électoral à un tour dans un immense pays comme la RDC, à une loi électorale injuste, taillée sur mesure, susceptible de favoriser les nouveaux riches issus de l'espace politique, sans oublier la stratégie de rouler les gens dans la farine du dialogue pour enfin violer les accords qui en résultent. Donc, je m'en vais dire ici que lorsque une frange de l'opposition se donne le luxe de recourir à une arme lourde comme celle de la masse, qui ne peut être que le dernier recours des armes qu'on peut recourir dans un combat à quelques mois, à quelques semaines de la tenue des élections, c'est dire que les gens n'ont pas bien pensé ou les gens font un autre jeu qui n'est pas celui nécessairement de lutter pour la clarté dans les opérations électorales.
Alors, Étienne Vivien,
il a fallu commencer ce combat bien avant l'échéance du 23 décembre.
Alors, Étienne Vivien, qu'est-ce qu'auriez-vous proposé à l'opposition de faire alors comme action déjà un peu avant et surtout maintenant?
Comme l'opposition a déjà essuyé des revers politiques depuis l'avènement du changement du mode de scrutin dans un pays immense où nous pouvons avoir un président qui sera élu à moins de 50%, et comme l'opposition a essuyé de revers dans l'hémicycle où ils ne pouvaient pas, par leur minorité numérique, de ne pas faire passer des lois justes pouvant permettre nécessairement une opération électorale transparente. Donc l'opposition devait à ce moment ici commencer à former les observateurs dans les bureaux de vote, s'en tenir sur cette question-là, parce que la question machine à voter ou la question bulletin de vote, si les gens veulent réellement tricher, ils peuvent tout faire. Il n'y a pas qu'avec la machine à voter qu'on peut tricher.
Étienne Vivien,
tricher aussi avec le bulletin.
Étienne Vivien, Kalonji, maintenant, du côté majorité, quelle évaluation vous faites? L'objectif de leur meeting, c'était présenter leur candidat. Avez-vous l'impression que quelqu'un a véritablement été présenté comme candidat valable pouvant prendre le poste de président de la République?
Oui, la majorité s'est retrouvée avec une des personnalités qui n'a pas été préparée dans le chef du conscient des Congolais pour briguer la majorité suprême. C'est quelqu'un qui a été nommé comme ça, alors que la plus grande partie de notre population ne le connaît pas, ne le maîtrise pas, s'il faut s'en tenir aux élections transparentes. Raison pour laquelle ce meeting pour eux devait être une occasion pour ici lancer déjà leur candidat qui doit se faire connaître auprès de tous les Congolais qui habitent les coins les plus reculés de la RDC. Et c'est de cette manière qu'ils ont usé de tous les moyens possibles de sollicitation, de contraintes pour amener l'affluence humaine dans le stade afin de prouver à l'opinion nationale et internationale que leur candidat est capable nécessairement ici de jouir peut-être de cette victoire qui pourra s'annoncer.
Merci.
Je pense que de leur côté, leur stratégie a payé, mais seulement ceux qu'il faut s'en tenir et qui sont sur une pente de la manipulation de conscience qui du reste ne peut pas tenir longtemps si du moins les autres jouent le jeu de pouvoir ici sécuriser leur électorat.
Merci Étienne Vivien Kalonji. Nous allons faire parler les auditeurs maintenant. La réflexion de cet auditeur qui est destiné à l'honorable Ewanga nous vient de Namega Bepascal.
suis Namegabe Pascal, parti de Bukavu au sud Kivu. Tout en saluant les forces de responsabilité des organisateurs de ces deux grandes manifestations, tant du côté de l'opposition et de la majorité, j'exhorte les autorités politico-administratives d'en tirer une leçon et de ne ménager aucun effort pour autoriser d'autres manifestations, car les récits semblent provoquer plusieurs dégâts matériels alors que l'autorisation produit de bons résultats. La RDC étant un pays démocratique, chacun devrait donc supporter les principes et les règles démocratiques en vue d'éviter des morts d'innocents et à cause de l'intolérance politique.
Jean-Bertrand Ewanga, j'imagine que vous avez écouté tout à l'heure Patrick Kanga, mais aussi cet auditeur. Quelle réponse vous voulez donner à ces deux réactions?
Non, je voudrais dire que le stade Tata Raphaël ne peut pas contenir ça 80 000 personnes. C'est pour 40 000. L'excès pouvait arriver jusqu'à 50. On peut s'arrêter là-bas. Et quand je parle des gens qui ont été ramassés, des fonctionnaires qui ont été sommés, aller répondre, c'est une vérité. L'argent de l'État a été utilisé. Je suis un parlementaire, nous avons de moyens et un dossier sera constitué là-dessus. L'analyse de M. Kalonji m'étonne un peu. Il est très pessimiste. Il croit que l'opposition ne peut rien faire dans ce pays. Il faut croiser les bras et s'amener à la guillotine. Ça m'étonne.
Il vous recommande de former plutôt des surveillants, des
observateurs. Pour un chercheur qui voit que cette opposition a eu des coups très, très, très fatals. Nous avons perdu beaucoup des nôtres. Il fallait se remettre. Et quand nous nous remettons sur les rails, lui voit que on va encore torpiller, ainsi de suite, tout ce bon. Ça lui regarde. Mais nous disons que même jusqu'à la dernière minute, nous croyons à ce peuple et à l'opposition. Et dans les combats que nous avons menés avec M. Kabila, l'opposition a remporté beaucoup de victoires. La constitution n'a pas été changée. Monsieur Kabila ne s'est pas représenté. Monsieur Kalonji doit savoir que c'est pas un cadeau. C'est parce qu'il y a une opposition qui a mené des actions. Le sang a coulé. Et ce pays a obligé Monsieur Kabila, en dépit de son armée, de son argent, de nous désigner un dauphin. Et si vous parlez du dauphin, j'aurais bien voulu que mon ami, collègue, nous avons été nommé gouverneur le même jour, Monsieur Chadari, le dauphin, pourquoi il n'a pas été présenté publiquement par le chef de l'État? Parce que c'est pas le dauphin du Premier ministre. Ça, c'est aussi une autre préoccupation. Donc, nous disons que du côté FCC, cette mobilisation qui a été faite, comme le conseiller Kanga l'a dit, que entre l'activité de vendredi et de samedi qui a gagné, mais non, ça c'est l'illusion d'optique. Depuis toujours, le régime Kabila n'a jamais gagné à Kinshasa. En 2006, en 2011, et ça sera le même. Vous savez, s'ils s'accrochent à la fameuse machine à voler à dauphin, parce qu'ils le savent, nous allons mener notre combat pas parce qu'on veut refuser d'aller aux élections. Nous voulons les élections crédibles. Nous voulons les élections inclusives, transparentes, démocratiques, libres, qui pourront nous amener à installer des institutions républicaine, capable de pouvoir assurer le décollage économique de notre pays. Parce que les cafouillages qui s'est fait avec les FCC aujourd'hui, ils sont nombreux aujourd'hui, mais parce qu'on n'a pas encore partagé le pouvoir. Même pour aller aux élections, où est-ce qu'ils auront l'argent pour supporter les 10 000 candidats? N'est-ce pas? En 2011, le PPRD n'a remis que $500 par candidat.
Merci.
Et nous disons que ensemble et partout, à travers le pays, et quand nous avons lancé les mots d'ordre, la présence d'ensemble s'est ressentie dans tous les pays. Et si notre leader, Moïse Katumbi, que le peuple attend et attendra toujours, a été écarté des élections, c'est parce que il fait peur. Le FCC a eu peur de lui, parce que s'il était là, il allait tout rafler, mais nous ne perdons pas l'espoir.
Merci
jusqu'à la dernière minute.
Merci Jean-Bertrand Ewanga. Nous reviendrons à vous pour le mot de la fin. Le temps de faire écouter cette réflexion au conseiller Patrick Kanga, qui sera une réflexion qui est signée Augustin Tendilongue.
Augustin Tendilongue, je suis avocat vous aussi que vous. Je me demande si dans une ville qui compte plus de 7 millions d'habitants, L'ex-7 s'est tapé la poitrine pour avoir glané autour de lui 40 000. Chose qui me pousse à croire que l'FCC a aussi peur des élections. Si du moins ces élections seront tenues le 23 décembre de cette année, comme prévu dans les calendriers électoraux, à mon avis, ni les candidats de l'opposition, ni celui du FCC, personne ne peut les emporter. D'ailleurs, la timidité de Ramazan Shadary lors de ces meetings l'a réellement prouvé.
Alors, Patrick Kanga, quelle est votre réponse à ce commentaire de Augustin?
Merci. Je voulais d'abord essayer de préciser beaucoup de choses qui ont été dites ici, notamment sur le candidat. Il y a l'analyste politique, le professeur Bobka Bamba, je ne sais pas, celui qui vient. Monsieur Vivien.
Étienne Vivien Kalonji.
Étienne Vivien Kalonji qui venait de dire que nous avions un candidat qui n'est pas prêt, qui n'a pas les ressources nécessaires pour être candidat.
C'est son analyse.
Je pense que l'honorable Iwanga venait déjà de dire qu'ils ont été élus gouverneurs au même moment. C'est quelqu'un qui a un cursus politique très connu et je ne sais pas s'il y a beaucoup de candidats aussi préparés que lui. Il a assumé des fonctions au niveau de la petite territoriale, au niveau de la territoriale, ministre de l'Intérieur, secrétaire général du parti présidentiel. Si vous appelez ça de l'impréparation, alors je ne sais pas ce que c'est que la préparation. L'honorable Shadary est une personne qui est conscient des enjeux politiques de ce pays. Il a été président du groupe parlementaire PPRD, coordonnateur des élus de la majorité présidentielle. Ça n'en finit pas, je peux énumérer jusqu'à demain. Il y a très peu de gens compétents comme lui. Je ne veux pas parler de compétences, je ne veux pas parler de cursus universitaire, je ne veux pas parler de cursus professionnel. Nous en connaissons des candidats pour qui ça pose problème, un grand problème.
Alors, M. Shadary a peut-être des qualifications...
Pas peut-être. C'est remettre en doute. Il a des qualifications.
S'il vous plaît, il a peut-être ses qualifications.
Pas peut-être,
parce que
il a des qualifications.
Je ne connais pas...
Il ne faut pas remettre en doute.
Je ne connais pas les détails, je connais...
Vous savez qu'il a été votre ministre de l'Intérieur.
S'il vous plaît, est-ce que...
Non, vous savez qu'il a été votre ministre de l'Intérieur.
Permettez-nous de poursuivre l'émission.
Non, il faut qu'on soit républicain.
Est-ce que vous pouvez me permettre de terminer ma question?
Parce que quand vous dites peut-être, c'est comme si vous remettez en cause certaines choses.
Nous allons nous échanger.
Un journaliste traite les faits. Il ne faut pas être dans les sensationnels.
S'il vous plaît, Monsieur Shadary, il y a peut-être ces qualifications-là, mais n'est-il pas très peu connu du public et la raison pour laquelle on parle de...
Qu'est-ce que vous entendez par être connu du public? Vous pensez que Moïse Katumbi est connu à Bikoro? Vous pensez que Moïse Katumbi est connu à Idiofa? Vous pensez que Moïse Katumbi est connu partout? Qu'est-ce que vous entendez par peu connu du public? L'honorable Shadary a été élu deux fois à l'Assemblée
nationale. Toutes les qualifications qu'on venait de donner, le public ne les connaît pas.
S'il vous plaît, il a été...
Donc il faut admettre à certains moments que...
De quel public vous parlez?
La population congolaise.
Non, monsieur, ça c'est vraiment une...
C'est une question,
non,
hein?
Non,
c'est une question.
Non,
c'est une question que je vous pose.
C'est une exagération.
C'est une question que
en
je vous pose.
De quoi vous dites, en fonction de quoi pouvez-vous dire que
Monsieur
la population Kanga, ne connaît pas?
C'est une question que je vous pose. Je dis, n'est-il pas peu connu du public malgré ses qualifications?
Moi, je pense que nous devons partir...
C'est une question que je vous pose.
Mais c'est une réponse que je vous donne.
Oui, allez-y.
Sur quelle base vous partez?
C'est une question, c'est pas une affirmation.
Moi,
donc,
c'est une interrogation oratoire.
Oui,
vous n'êtes
pas
obligé de répondre.
D'accord.
Sur quelle base vous partez pour faire cette affirmation? Il est vice-premier ministre de l'Intérieur. Il a nommé les 145 administrateurs du territoire qu'il y a dans ce pays. Donc aujourd'hui, au moins au niveau de tous les territoires de ce pays, il a des gens qui connaissent son nom.
Pour quelle raison,
le
FCC?
S'il vous plaît.
Je pose des questions.
Mais vous m'avez
sinon,
posé
y a
une question. Vous ne me laissez pas finir.
Vous avez déjà donné la
vous
réponse.
Je n'ai pas donné la réponse. Je voulais continuer.
S'il vous plaît. Je suis le modérateur du débat. Permettez-moi de jouer
mon rôle. Mais laissez-moi au moins répondre à vos questions.
D'accord. Alors répondez. Pourquoi le FCC a-t-il organisé une manifestation pour le présenter, s'il était si connu que ça?
Le président Joseph Kabila a été présenté au public aussi.
D'accord. Alors quel est le sens que vous donnez au mot présentation?
Dans toutes les organisations démocratiques qu'il y a dans ce monde, on présente le candidat, même en Europe.
Je suis d'accord avec
même
vous.
Même aux États-Unis.
Mais quel est le contenu que vous donnez à la présentation?
C'est
une personne qu'on voudrait faire montrer à un moment donné.
Je pense que vous êtes dans des perceptions politiciennes.
Alors expliquez-nous quel était le rôle de la présentation de ce jour-là.
C'est une matinée politique où notre regroupement politique a présenté son candidat, qui est une forme de légitimation du FCC.
D'accord.
C'était la première fois que le FCC puisse présenter son candidat aux militants
merci,
de notre regroupement.
Merci pour
donc,
cette réponse.
Donc ce n'est pas...
Non, permettez à l'émission de
vous poursuivre. Vous me laissez pas finir.
Le même temps que tout le monde, s'il vous plaît.
Non, je n'ai pas eu le même temps que tout le monde.
Si, si, nous avons le chrono. Nous avons le chrono.
Si vous le dites.
Nous passons la parole à notre analyste, Étienne Vivien Kalonji, pour qu'il puisse nous donner sa réaction par rapport à cette remarque de Bismarck.
Kafuli Bismarck, d'Uvira, province du sud de Kivu, dans la ville d'Uvira précisément. Qui concerne la marche de l'opposition et les meetings de la majorité présidentielle de la semaine passée, mais quand même c'est un signe qui marque la démocratie. La CENI est là pour les gens de l'opposition et pour les gens de la majorité présidentielle.
Merci. Étienne Vivien Kalonji, quelle est votre réaction?
Oui, je n'ai pas bien saisi ce qu'il voulait dire. Je ne sais pas si vous pouvez me le rappeler. Il parle de la police, de la position de la police ou comment?
Il dit en quelques mots, il faut que la CENI fasse l'analyse de tout ce qui s'est passé en avance pendant les deux événements ou manifestations de l'opposition et de la politique. Et de l'opposition, si vous, de l'opposition et de la majorité.
Oui, je salue le compatriote, mais il doit retenir que la CENI n'est pas dans une position de faire une analyse parce que nous trouvons que la CENI est en train tout simplement ici d'évoluer selon ses points de vue, sans pour autant tenir compte aussi de l'opinion que dégage la population congolaise ou la communauté internationale. Donc ici, nous sommes plus à une étape où la CENI doit maintenant tenir, parce que le cas de fer entre la CENI et l'opposition et une partie de la société civile est déjà clair. La CENI a évoqué le cas de la machine à voter qui n'est pas dans nos instruments juridiques, et elle s'entête pour aller avec la population congolaise dans cette démarche. Et là où je fustige un peu l'opposition dans notre pays, c'est cette manière de négliger l'aspect stratégique, parce que quand j'entends l'honorable Ewanga dire que nous ne sommes pas conscients de ce que la population a pu faire avec...
Merci Étienne Vivien. Merci Étienne Vivien. Honorable Ewanga, quelle est la suite par rapport à l'opposition? Vous n'avez pas obtenu, très rapidement, en 10 secondes, quelle est la suite du programme?
La suite du programme, nous allons continuer avec des actions. Et des actions qui ne seront pas seulement pour Kinshasa, à travers le pays.
Merci.
Et rassurez-vous que les choses doivent changer et doivent bouger.
Merci, honorable Bertrand Ewanga. Willem Lungamba était à la technique, Guy Maté à la réalisation, Pele Kipela Mondo à la supervision, Dona Madimba c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention.